Voici les matins qui débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Long silence et genoux à terre à Paris et à Houston. Hommage à George Floyd, ses obsèques hier prennent un tournant plus politique, vous l'entendrez, des deux côtés de l'Atlantique.
Quoi qu'il en coûte, avait dit Emmanuel Macron, le budget est donc rectifié une troisième fois. Pour répondre à la crise, il sera présenté en Conseil des ministres ce matin.
45 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les entreprises et le pouvoir d'achat des Français mis à mal par la crise. Alors que s'ouvre une vaste enquête préliminaire sur la gestion de la Covid-19 en France, le syndicat des radiothérapeutes oncologues demande, lui, à tirer les leçons de la crise sanitaire. 8 ans après la publication de premières accusations sur un financement libyen pour sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy et ses proches vont contester aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris la validité de l'enquête judiciaire.
Et puis la question du jour, dans une dizaine de minutes, Catherine, comment expliquer l'ampleur des mobilisations contre les violences policières ? On posera la question à l'écrivain et documentariste David Dufresne.
La foule réunie à l'appel d'SOS Racisme a observé genoux à terre 8 minutes et 46 secondes de silence, la durée pendant laquelle le policier Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd, plaqué au sol et se plaignant de ne plus pouvoir respirer. Elles étaient 2400 selon la préfecture de police de Paris, 12 000 personnes selon SOS Racisme à se rassembler hier donc, place de la République à Paris, à l'heure où débutaient aux États-Unis les obsèques de George Floyd, cet homme noir de 46 ans, tué le 25 mai dernier par un policier blanc. L'hommage en France a vu les politiques se joindre aux anonymes. Le reportage d'Antoine Marette.
Camélia Jordana interprète l'hymne du mouvement de lutte pour les droits civiques devant une foule recueillie. Pendant les 8 minutes 46 secondes de silence, certains manifestants mettent le genou à terre, un geste de protestation contre le racisme devenu planétaire. 8 minutes 46 secondes pendant lesquelles, le 25 mai dernier, un policier a écrasé la gorge de George Floyd. Mais rapidement, les discours à la tribune s'éloignent de George Floyd pour se rapprocher des violences policières en France. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, interpelle le gouvernement.
Nous avons un problème en France. Il y a une avalanche de révélations ces dernières semaines. Ces révélations sont graves parce qu'on est en train de parler d'un corps de l'État. On est en train de parler d'un corps qui a le monopole de la violence légitime.
Les témoignages se succèdent, parmi lesquels celui de Danny Turbesh, le cousin de Malik Houssekine, tué par des policiers en 1986.
Oui, malheureusement, la police tue. Ceux qui doivent nous protéger prennent la vie de nos cousins, de nos frères, de nos sœurs. Alors aujourd'hui, j'ai dit Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter.
Les vies noires comptent. Le slogan en anglais est repris par la foule. Derrière la tribune, des leaders politiques de gauche et écologistes sont présents mais discrets. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel, aucun d'entre eux ne prendra la parole face aux manifestants.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait demandé hier avant la manifestation parisienne l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences policières lors des questions au gouvernement. Olivier Faure avait interpellé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur le malaise profond qui existe, dit-il, entre les Français et les forces de l'ordre. Édouard Philippe a tenté, lui, de calmer la politique qui enfle sur les violences policières en appelant au respect et à la confiance vis-à-vis des forces de l'ordre, mais aussi à l'exigence dans un contexte de très grande émotion après la mort de George Floyd donc aux États-Unis. Juste avant l'intervention du Premier ministre, la sœur d'Adama Traoré a, elle, tenu une conférence de presse pour réclamer des actes de justice sur la mort de son frère, appelant de nouveau à manifester ce samedi et d'ajouter qu'elle ne demande pas, je cite, que des discussions se fassent dans un salon de thé de l'Élysée, elle qui avait refusé de rencontrer la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Débat politique et sociétal, on l'a bien compris, débat bien sûr aussi aux États-Unis. Les funérailles de George Floyd ont eu lieu hier à Houston, sa ville natale au Texas, un peu plus de 2 semaines après la mort de cet Afro-Américain de 46 ans, tué par un policier blanc lors de son interpellation. Cérémonie entre émotion et revendication, suivie par notre envoyé spécial Grégory Phillips.
tirée par deux chevaux blancs. La calèche sur laquelle repose le cercueil doré de George Floyd pénètre dans ce gigantesque cimetière situé au sud de Houston, au milieu des bayous. Pour ce dernier kilomètre, ils sont plusieurs centaines rassemblés sur le bord de la route ou dans les allées du cimetière à acclamer le passage du convoi funéraire. Floyd enterré, que va-t-il se passer maintenant ? C'est un moment tellement incertain, dit Cynthia, parce que ces choses arrivent aux Afro-Américains depuis des années. Regardez, il y a deux jours seulement, un gars s'est fait maintenir au sol, lui aussi, par des policiers avec une pression sur son cou, à Austin, au Texas, et il est mort. Et ça, après Floyd, il faut continuer à maintenir la pression. Son ami, Terrence, un avocat, va plus loin. Dans les tribunaux, on n'a jamais assez de jurés noirs, de juges noirs. Les avocats noirs ne représentent que 3% de la profession. On manifeste et c'est bien. Mais dans 2 ou 3 mois, vous verrez, on condamnera un Afro-Américain à 25 ans de prison parce qu'il a utilisé un faux billet de 10 dollars. L'inhumation se fait loin des caméras et du public. C'est un moment privé. Mais derrière les grilles du cimetière, d'autres continuent à prier pour que la mort de Floyd et les 15 jours de colère et de peine qui ont suivi permettent de changer un peu la situation des Noirs aux États-Unis.
Grégory Philippe, envoyé spécial de France Culture à Houston, au Texas.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, un nouveau budget de crise pour aider les entreprises, les salariés et les ménages les plus fragiles, sera présenté ce matin en Conseil des ministres.
Les 15 milliards d'euros pour l'aéronautique annoncés hier viennent s'ajouter aux 18 milliards pour soutenir le tourisme, aux 8 milliards pour l'automobile et aux milliards d'euros pour les entreprises de la tech, sans compter les TPE. Ce troisième budget rectificatif, vous l'avez dit Guillaume, sera présenté ce matin en Conseil des ministres pour répondre à la crise. La France s'endette massivement, notamment grâce à la Banque européenne, des dépenses assumées par l'exécutif Cyril Gradiani.
Clairement, la dette n'est aujourd'hui plus la priorité. À Bercy, toutefois, on prévient, s'endetter, ça ne veut pas dire dépenser n'importe comment. Et pour le rapporteur général du budget, le député Laurent Saint-Martin, l'endettement était la seule solution.
C'était le meilleur choix et tout le monde en convient. Aller dépenser des dizaines et des centaines de milliards d'euros pour accompagner notre économie et nos emplois dans cette traversée de crise ne pouvait se faire que par l'endettement, puisque nous n'allions pas raisonnablement augmenter les impôts des Français qui auraient subi une double peine dans cette crise. Donc c'est un choix politique assumé, qui est celui de l'endettement public, qui est le bon, parce que la France peut se le permettre, il faut en avoir conscience, mais ça voudra dire aussi que nous reprendrons un sérieux budgétaire quand la sortie de crise sera actée.
Même chez les partenaires du Modem, François Bayrou ayant fait de la question de l'équilibre des comptes l'alpha et l'oméga de sa politique, certains se rassurent avec les taux d'intérêt très bas. Quant aux hausses d'impôts, aujourd'hui, la majorité les rejette. À Bercy, on rappelle notamment les leçons de la crise de 2011. Nicolas Sarkozy avait décidé une augmentation d'impôts qui avait figé le pays. Dépenser à tout va pour relancer l'économie, un ténor de l'opposition ne se risque pas à critiquer, mais prévient Emmanuel Macron. Nous sommes dans la stratosphère, attention au retour dans l'atmosphère, car ça ne va pas se passer comme pour SpaceX. On ne va pas atterrir sur une plateforme. Fermez les guillemets.
Et le bâtiment attendra, lui, la rentrée pour son plan de relance. C'est le billet économique d'Anne-Laure Jumet à suivre à 7h25 sur France Culture. Également au menu du Conseil des ministres ce matin, la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain. Un projet de loi doit être présenté pour permettre durant 4 mois encore de réglementer au besoin l'accès aux transports publics, de limiter certains rassemblements ou de fermer à nouveau des établissements recevant du public. Alors que la France a enregistré hier 87 décès liés à la Covid-19, portant à 29 296 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. La gestion de la crise en question, avec l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire en France, visant notamment les chefs d'homicides involontaires ou de mise en danger de la vie d'autrui. Cette enquête est une première réponse judiciaire à une quarantaine de plaintes, plus ou moins circonstanciées, reçues par le parquet de Paris pendant le confinement. On y revient dans le journal de 7h30. De son côté, le syndicat national des radiothérapeutes oncologues appelle à tirer les leçons de la crise, Aurélie Kiefer.
Dans le petit monde de la radiothérapie, public et privé travaillent en bonne entente. Et quand la crise sanitaire est arrivée, les médecins ont rédigé ensemble les recommandations permettant une prise en charge optimale des patients cancéreux. Mais ils ont beau le réclamer depuis 8 ans, les cabinets de radiothérapie ne sont pas considérés comme des établissements de soins. Ils n'ont donc pas eu droit aux dotations de matériel de protection. Il a fallu se débrouiller sans réel soutien des agences régionales de santé, explique Éric Montpetit, radiothérapeute à Vannes. Il préside le syndicat national des radiothérapeutes oncologues.
Pour la Bretagne, il y a 4 cabinets libéraux et entre moi qui ai eu la notation dans la semaine qui a suivi, Brest a dû relancer 3 fois, Rennes a attendu 3 semaines, Saint-Brieuc a attendu 1 mois. Donc l'ARS a une réponse différente pour 4 cabinets dans la même région. Alors que théoriquement, les ARS sont quand même là pour que le traitement délivré aux patients soit le meilleur possible, quel que soit le lieu d'habitation du patient. Et là, il y a eu un traitement différent. Et ce qui s'est passé en Bretagne s'est retrouvé partout. C'est-à-dire que même au niveau national, les réponses des ARS ont été tout à fait hétérogènes et non adaptées. Il aurait fallu d'emblée dire, vous continuez à traiter vos patients, il faut que ce soit fait en façon sécuritaire, donc on vous donne la dotation. Et non, ça n'a pas été fait.
Alors qu'ils préparaient leur stratégie de reprise d'activité, les praticiens ont vu réapparaître les tutelles, ce qui les a passablement énervés. La seule instance avec laquelle les cancérologues travaillent librement, en se sentant écoutés, c'est l'INCa, l'Institut National du Cancer, qu'ils aimeraient voir doté d'un pouvoir décisionnel. Ils plaident aussi pour la mise en place de comités paritaires publics-privés. Les ARS n'auraient alors plus qu'à appliquer les décisions prises au plus près du terrain.
8 ans après les premières accusations portées contre Nicolas Sarkozy, ses avocats vont tenter aujourd'hui de faire invalider l'enquête menée sur le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Les précisions de Florence Turme.
C'est une audience qui se déroulera à huis clos, audience procédurale mais néanmoins cruciale pour la poursuite de l'information judiciaire ouverte en 2013. 7 années d'instruction au cours desquelles les juges ont identifié des mouvements de fonds suspects et réuni une somme d'indices troublants, alimentés notamment par les déclarations du sulfureux homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. Il affirme avoir joué les intermédiaires et remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant. 7 années d'instruction qui n'ont pas permis de réunir des preuves matérielles irréfutables, mais ont conduit à la mise en examen de 9 personnes, en tête desquelles l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy réclame d'abord la reconnaissance de son immunité présidentielle pour une partie des faits qui lui sont reprochés, et il estime par ailleurs, tout comme son ancien ministre Brice Hortefeux, que leur cas relève de la Cour de justice de la République. Ce n'est en fait qu'une partie des arguments déployés par la défense des mises en examen. Un autre intermédiaire, Alexandre Djouri, arrêté et à Londres et remis à la justice française, conteste pour sa part la validité des mandats d'arrêt émis à son encontre. Autant d'arguments que l'avocat général devrait s'employer à démonter au cours de l'audience. Dans ses réquisitions écrites, il demande à la Cour de valider les investigations des juges d'instruction, de leur permettre donc de poursuivre leur enquête et de boucler le dossier.
Après 15 années passées à la tête du Burundi, 15 années marquées par une crise politique meurtrière et l'appauvrissement de sa population, le président Pierre Nkurunziza est mort hier à l'âge de 55 ans, officiellement des suites d'un arrêt cardiaque. Lui qui s'apprêtait à quitter le pouvoir dans quelques semaines, sa succession est en question et on y revient dans la revue de presse internationale de Camille Manière après le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 10 juin variable, les températures sont comprises ce matin entre 6 et 13 degrés du nord au sud jusqu'à 16 en Corse, Guillaume Erner.